Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode du Carton. Dans ce podcast, nous revenons sur l'actualité NBA à la manière d'un match de notre ligue préférée avec 4 cartons de 12 minutes avec notre équipe de chroniqueurs de talent. Et autour de la table avec moi ce soir, celui qui est très déçu de voir Giannis prendre le titre de MVP tant il aurait voulu voir le King le récupérer, Johan.
Salut tout le monde.
Et de l'autre côté du terrain, celui dont les bagues feraient pâlir de jalousie un Kevin Durant sur le terrain de Memphis, Benjamin.
Salut tout le monde.
Comment ça va les gars?
Ça va super.
Quelle intro, comme d'habitude.
Tu es trop gentil, tu me flattes et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 13e épisode et j'espère qu'il nous portera chance. Et on s'en va directement pour ce carton en direction d'Orlando et des finales de la conférence avec la question « Qui jouera le titre cette année ?» Après des playoffs qui nous auront tenus en haleine, les deux conférences ont fait sortir du chapeau les quatre prétendants à la finale de cette saison 2019-2020. On se penche tout d'abord sur la conférence Est, avec deux équipes en liste, d'un côté Boston et de l'autre Miami. Après un premier tour qui a été assez facile pour chaque équipe, il y a eu un sweep respectivement face à Philadelphie et Indiana, les demi-finales de conférence ont été une sorte de formalité pour l'un et un véritable parcours du combattant pour l'autre. Et qui mieux qu'un fan de la franchise pour parler d'un parcours du combattant, je vais d'abord me tourner vers Benjamin. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée en liste de tes Celtics?
Déjà, pour rétablir un petit peu la vérité, c'est vrai que j'aime beaucoup les Celtics. Après, je ne me définirais pas comme un vrai fan de NBA, parce que qui perd ou qui gagne, je m'en fous un petit peu. N'empêche que c'est une équipe qui joue bien au basket, et je suis assez content de les voir. Ils ont passé un premier tour beaucoup plus facile que prévu face à Philadelphie. Pour enchaîner derrière les Raptors en 7 matchs. C'est une équipe qui a une excellente dynamique sur ses playoffs, une excellente défense à l'extérieur, un jeu très rapide mais aussi très efficace. Tous les joueurs ont vraiment une place dans cet effectif. Jason Tatum est brillant, Jalen Brown fait tout le sale boulot, Marcus Smart est au four et au moulin, Kemba Walker fait quelques mauvais matchs mais il est toujours décisif dans les moments importants. Même les remplaçants sont vraiment à leur meilleur niveau. Daniel Theis joue à un niveau qu'on n'a jamais attendu de lui. Finalement, en fait, je suis vraiment très satisfait de cette équipe-là. Fan ou pas, c'est quand on aime le beau basket, on aime ce que proposent les Celtics actuellement.
Alors, c'est vrai que la série face à Toronto, elle est jusqu'en 7 matchs, mais on a senti quand même qu'il y avait une certaine logique. Est-ce que pour toi, Toronto, ça a été aussi dur que ce qu'on veut le croire?
La vérité, c'est que c'était plus facile que prévu au final. Parce que d'un côté, il y a eu Pascal Siakam qui était vraiment pas dans ses baskets, on va dire, qui était vraiment mauvais sur cette série-là. Ils ont fait face à une équipe qui était diminuée en un sens de son meilleur joueur. Il était bien présent, donc c'est de sa faute à lui. C'est-à-dire que c'est pas un coup du sort, c'est pas de la chance, c'est juste que Pascal Siakam n'a pas été efficace. Mais du coup, ils ont posé moins de résistance que prévu aux Celtics. Mais finalement, 7 matchs, ça reste quand même une opposition qui est assez claire. Les matchs étaient assez serrés. Même si on avait l'impression d'une domination assez constante des Celtics, ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Donc je pense que c'était une série épuisante pour les Celtics et que les Raptors ont vraiment fait leur travail dans cette série.
Et c'est vrai que de l'autre côté, et ça va beaucoup compter, comme tu disais, tu parlais de la fatigue et ça va beaucoup compter pour la suite, puisqu'il y a le Heat qui, contre toute attente, est parvenu à se défaire. Donc, comme je disais précédemment, d'Indiana en 4 matchs, mais c'est surtout face à Milwaukee que la franchise nous a vraiment impressionnés. Je me tourne vers Johan pour cette question. Et plutôt que parler de la défaite des Bucks, sur laquelle on reviendra et où on aura vraiment le plaisir de débattre dans un autre carton de cet épisode, quel est pour toi le facteur X de cette équipe de Miami?
Pour moi, c'est Goran Dragic. Enfin, je m'explique, parce qu'en saison régulière, Goran Dragic, il était relégué autant que 6e homme de l'équipe. Avec moins de temps de jeu, c'était Kendrick Nunn qui était meneur titulaire de cette équipe. Et là, en playoff, retour dans le 5 majeur, c'est le meilleur marqueur de cette équipe en termes de points sur les playoffs pour l'instant du Miami, à quelque chose près avec Butler, 21-6 pour l'un, 21-9 pour Dragic. Donc pour moi, c'est vraiment Dragic parce qu'il est vraiment sur une autre planète en ce moment. Il performe, c'est lui le maître à jeu de cette équipe avec Butler. Il forme une traction arrière plus qu'intéressante et très très difficile à jouer. Puis après, je ne parlerai pas de Factor X, il y a tellement de Factor X au Miami, que ce soit Jake Roder, Tyler Hero, Duncan Robinson. Il y a tellement de facteurs X, que c'est une équipe tellement collective. Hein, j'ai noté qu'il y avait plus de 6 joueurs à plus de 13 points dans l'ensemble de ces playoffs, qui marquent vraiment la force collective de cette équipe, qui recule à laquelle soit en attaque ou en défense. On parle d'une équipe qui est la deuxième défense des playoffs, des playoffs, et la quatrième attaque de ces mêmes playoffs. Donc on est vraiment sur une équipe de très 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 haut niveau qui voilà a pu surprendre par sa victoire contre les Bucks, mais quand on regarde son niveau affiché, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est une équipe qui est plus collective et plus forte collectivement que les Bucks. Et du coup, bah, sur le papier, c'est peut-être la meilleure équipe qui a gagné.
Et c'est vrai que, comme tu le disais très justement, il y a une vraie force du collectif du côté de Miami. Et je précise juste que à l'heure où on enregistre, au jour où on enregistre, le Heat mène déjà 1-0 dans la série face aux Celtics. Donc ils jouent ce soir pour le deuxième match. Mais c'est juste pour vous placer un peu le contexte pour nos auditeurs. Enfin, donc, du coup, pour finir avec cette conférence, messieurs, toi, Johan, qui va finir en finale NBA et en combien de matchs?
Ah, je pense que ça va partir en 7. Ce match-là, ça va se renvoyer coup pour coup parce que c'est des équipes là qui reposent un peu dans le même style sur deux forces collectives, deux bonnes attaques, deux très très bonnes défenses. Hein. On a les deux meilleures défenses des playoffs qui s'affrontent en ce moment en finale de conférence à l'Est. Donc ça va être hyper intéressant, ça va se rendre coup pour coup. Je vois un 4-3 et à l'expérience, je verrai 4-3 hit.
Et toi, Benjamin, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que pour toi, c'est le hit qui l'emporte?
Pour moi, c'est vraiment un affrontement entre deux équipes de force relativement égales. Je ne serais pas étonné de voir le Heat l'emporter. Je pense, comme Johan, que ça traînera en 7 matchs, peut-être 6, on ne sait jamais. Par contre, personnellement, je choisirais plutôt Boston, tout simplement parce qu'ils ont des attaquants très rapides. Ils peuvent imposer un rythme incroyable au Heat. Ils ont des matchs favorables sur beaucoup de postes, pas au poste de pivot évidemment, mais sur presque tous les autres postes. Et franchement, je pense que les Celtics ont plus d'armes pour s'en sortir face aux Heat. Ce qui a manqué aux Bucks, c'était aussi un petit peu un coach rigoureux. Là, il y a Brad Stevens qui est là pour jouer le garde-fou. Je pense que ça jouera en la faveur des Celtics et qu'ils remporteront la série.
Et maintenant, on prend la direction de la conférence Ouest avec, pour commencer, les Lakers. Bien qu'ils se soient sortis rapidement des deux premiers tours, c'est pas une équipe des Lakers exceptionnelle qu'on a vue, même si la paire James Davis semble faire des merveilles. Est-ce que pour vous, il y a vraiment quelque chose à dire sur les violets et or depuis le début des playoffs? Une petite inquiétude, on sait qu'ils ont gagné 4-1 respectivement face à Portland et Houston. Est-ce que pour toi, Benjamin, il y a quelque chose à regarder? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder du côté des Lakers pour le moment?
Comme tu l'as dit, ils ont rien fait vraiment incroyable, mais j'ai l'impression que depuis leur défaite contre Houston, ils sont un petit peu plus sérieux. Alors j'ai envie de dire, LeBron James fait son travail, Anthony Davis fait son travail, tout le monde fait à peu près son travail. Et ce qui était peut-être intéressant à regarder dans la série face à Houston et Portland, c'est comment Frank Vogel a pu articuler son roster face aux différents match-ups. Il a vraiment montré qu'il pouvait se débarrasser de ses pivots, qu'il pouvait vraiment jouer avec son effectif de manière à s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quelle équipe. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a pu apprendre des Lakers sur ces deux premières séries, mais rien de plus, à part qu'ils assument leur statut de favori jusque-là.
Toi, de ton côté, Johan, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à dire ou tu es un peu du même avis que Benjamin?
Ils font des playoffs voilà, comme on les attendait. Ils n'écrasent pas la concurrence, mais ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'il faut faire. Et on les sent sereins, fort, ils maîtrisent leur sujet, quoi. Tant que LeBron et Anthony Davis jouent à ce niveau-là, il n'y aura pas de grand-chose qui pourra enrayer la machine Lakers, pour moi.
Et donc, du coup, s'il y a une équipe sur laquelle il faudrait un peu plus se pencher, ce sont les Denver Nuggets. Alors, ils ont été très mal embarqués face au Jazz, puisque la franchise de Salt Lake City menait 3-1. Et les Nuggets parviennent à remonter dans la partie grâce à un excellent Jamal Murray. Alors, le jeune meneur s'est livré vraiment un duel de champion face à Donovan Mitchell. Et à la fin de la série, il affiche des stats exceptionnelles. Il est en 31,4 points de moyenne, 5,5 rebonds, 6,3 passes, 54,9% au tir et 53,3% à 3 points. Alors c'est des statistiques hallucinantes qui envoient Denver en demi-finale de conférence dans un Game 7 très intéressant. Et on se dirige vers les Clippers et à la manière du premier tour, Denver remonte en retard de 3-1, mais dans une série qui était étonnamment presque plus logique que la première. Alors, j'aurais une question très simple et je me tourne vers Johan. Est-ce que Denver est capable de faire tomber l'ogre Lakers ?
Sur les ajustements, oui, ils sont capables. Ils sont capables en fonction toujours d'embêter, on voit s'ils sont capables d'embêter les Clippers, de revenir. Ils ont une force mentale, ces Nuggets-là, qui est assez incroyable parce que même menés de 20 points, ils ont été menés plusieurs fois menés de 20 points contre les Clippers, notamment au Game 5, Game 6, où les Clippers menés avaient l'avantage et auraient pu tuer le match, auraient même dû tuer le match. Et les Nuggets sont revenus à chaque fois, le couteau entre les dents, n'ont jamais baissé les yeux, n'ont jamais baissé les bras, ni baissé la tête, et ils sont revenus à chaque fois. Et le momentum change vraiment au Game 6, où ils font encore un incroyable comeback, et vraiment, le momentum a vraiment changé. Par contre, attention, une fois, deux fois, mais s'il y a 3-1 pour les Lakers, ça ne partira peut-être pas une troisième fois. Même si on dit jamais 203, il ne faudra pas attendre d'être mené 3-1 pour se réveiller et faire des ajustements.
Alors, c'est vrai que ça va être peut-être un peu plus compliqué. Toi, de ton côté, Benjamin, est-ce que tu penses que les Nuggets sont vraiment capables de parvenir à l'emporter face aux Lakers?
Après ce qu'ils ont proposé sur les playoffs, je pense que cette équipe est capable de n'importe quoi. Je pense qu'ils pourraient gagner un match de football américain, je pense qu'ils pourraient aller marcher sur la lune. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont monté deux fois un écart de 3-1, c'est du jamais vu en playoffs, et c'est une équipe qui est tout simplement incroyable. C'est incroyable, c'est le mot. J'ai jamais vu ça venir de la part des Nuggets. Alors s'ils battent les Lakers, je serais quand même surpris. Mais ce sera juste une surprise de plus. Par contre, franchement, je pense que le pire match-up qu'ils auraient pu avoir, c'était contre les Lakers, puisqu'ils ont la profondeur pour contenir un minimum Jamal Murray et Anthony Davis sur Nikola Jokic. C'est pas vraiment le même défenseur que Ivica Zubac. Nikola Jokic va être limité, Jamal Murray va être vite fatigué. Les Lakers ont beaucoup de profondeur, ils ont un vrai coach, ils ont une vraie rigueur défensive. À mon avis, c'est la meilleure défense de l'Ouest de très loin. Et je pense que les Nuggets, cette fois-ci, vont devoir s'incliner devant la logique et devant une équipe qui est meilleure que la leur.
Et du coup, je vais vous demander très rapidement un pronostic sur cette série, Benjamin.
Moi, je vois les Lakers en 5.
Lakers en 5. Et de ton côté, Johan ?
Je préfère pas me prononcer, je veux pas porter l'œil à LeBron, c'est tout.
Alors, on notera que Johan n'aura pas eu de courage pour nous donner son pronostic. Je rappelle vite les pronostics de nos chroniqueurs. Alors, de côté de la conférence Est, Johan pense que c'est Miami en 7. De son côté, Benjamin pense que ce sera Boston en 7. Et enfin, on penche plus sur un Lakers en 5. Le buzzer du premier carton retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première partie du 13e épisode. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste NBA pour nous donner votre avis sur ces finales de conférence qui, au moment, comme je disais, où nous enregistrons, se jouent ce soir avec le deuxième match entre Boston et Miami. Rendez-vous également sur notre site internet analyste-nba.com. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour le deuxième carton. Bonne journée à vous. Salut !